Le plan de numérotation téléphonique ou les espaces de nommage sur Internet partagent des problématiques intéressantes. Les limites et collisions, la maintenance et les détournements. En général, c'est ce que tentent de résoudre les registres centraux pour que les index restent utilisables. Et c'est pour ça que parler des codes barres est passionnant sur leur rapport à la logistique, et c'est pour ça que nous voulions poser des questions au GS1, l'organisme qui gère les index GTIN. Car nos problématiques se retrouvent par la gestion au niveau mondial d'une multitude d'opérateurs qui opèrent chacun un petit espace rien qu'à lui. Et certaines questions introduiront les codes barres 2D dont on parlera dans une prochaine émission. Pour les informations sur la normalisation logistique, on est allé les chercher à la source. Nous sommes heureux d'échanger plus que des bips avec Xavier Barras, directeur des opérations chez GS1 France, ancien directeur de la commission AFNOR sur le code barre et le RFID, ex-administrateur du Centre National RFID, et son nom en espagnol l'a sûrement prédestiné au domaine des codes barres.
CPU carré petit utile.
Pour commencer, quel est votre rôle au sein du GS1?
Alors, moi je suis le directeur des opérations de GS1 France, donc mon rôle il consiste à coordonner tout le développement et la conception de ce qu'on appelle nos produits, mais qui sont, ben, vous l'avez évoqué, un système d'identification des produits, mais aussi des entreprises, des colis, des lieux. Donc tout ce qui permet effectivement d'identifier, et on va focaliser sur le produit, d'identifier les produits de manière unique. Donc il y a une partie du travail qui est réalisée en France, mais aussi il y a aussi une grosse dimension internationale, puisque on va parler aujourd'hui d'un système d'identification des produits qui est un système 100% international.
On va bien préciser que donc vous êtes chez GS1 France, qui fait partie d'une association internationale qui s'appelle GS1. Quand a été créé le GS1 et avec quelle mission initiale?
Alors, le GS1 France, je vais commencer, ça s'appelait GeneCode, parce que on parle de GTN, mais il y a un petit nom aussi qui circule assez souvent qu'on appelle le GeneCode, le code à barre. Donc GeneCode, en fait, c'est une structure, une association sans but lucratif qui a été créée en 72, donc on a 50 ans cette année, par certain nombre de visionnaires, donc des entreprises de la grande distribution, donc des distributeurs et aussi des produits de grandes marques, qui ont dit que pour faire du business ensemble, elles avaient besoin d'avoir des règles communes pour identifier les produits et commander, facturer, livrer. Donc elles ont créé une structure en disant on va mutualiser nos moyens pour définir des règles communes, notamment sur l'identification des produits. C'est ainsi qu'est né GeneCode, puis GS1 France au niveau français. Ça a fait l'objet ensuite d'une création en 77 d'une structure européenne qui s'appelait EAN. En parallèle de ça, il y a eu des initiatives similaires dans d'autres pays, donc UCC en 73 aux US, et d'autres organisations, donc en Angleterre, en Hollande, en Espagne, en Allemagne. Et toutes ces associations locales se sont réunies progressivement pour ne former plus qu'une seule structure, avec dès le départ, dès les années 70, un système commun d'identification des produits.
Quels sont les autres services que propose GS1, outre le droit d'émettre un GTIN?
Alors, nous, notre rôle, je vais revenir sur le rôle parce que je pense qu'il est important, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de faciliter des échanges entre entreprises, notamment tout ce qui est échange de biens, de produits. Donc, en fait, on définit un certain nombre de standards qui vont faciliter ces échanges. Donc, c'est bien évidemment le GTIN avec l'identification des produits. Mais pour livrer une marchandise, il faut aussi identifier le point de livraison, identifier celui qui l'a commandé, identifier celui qu'il faut facturer. Il faut aussi identifier les colis qui sont transportés dans les camions. Et puis définir finalement la manière d'exprimer une commande, une facture, un avis d'expédition, comment tracer la marchandise. Donc on va définir tout un tas d'identifiants, d'identités qui permettent de faciliter l'échange de marchandises et l'échange de biens. Donc c'est vrai qu'on est très connu parce que c'est très visuel par le code à barre et ce code GTN qui ces 13 chiffres qui sont sur le produit. Mais en fait, il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, allez, je vais dire 90% des produits qui sont mis à la vente dans un hypermarché ou un supermarché, ils sont commandés en utilisant tout un certain nombre de standards GS1 et ça permet de dire que la commande que l'envoie à l'un de mes 4000 fournisseurs ou pour un fournisseur, le fait que je reçoive des commandes d'une dizaine ou d'une quinzaine de clients, Elles sont toujours sur un même format, donc elles sont très facilement compréhensibles, parce qu'elles sont au format GS1. Et donc, on facilite vraiment et on essaie de fluidifier au maximum tout l'échange d'informations qui facilite l'échange de marchandises.
Quand exactement on est passé du EAN, le European Article Numbering, au GTIN, au GTIN, et pourquoi ?
Alors, ça s'est fait, c'est en 2005, on avait finalement, je sais plus combien à l'époque, mais une petite centaine d'organisations qui travaillaient ensemble, mais on n'avait pas de nom commun. Donc, vous aviez EAN au niveau européen, GENCON en France, UCC aux US, AECOC en Espagne. Et donc, au niveau de international, on a décidé de tous se regrouper sous un seul nom qui est GS1. Et on a aussi dit, on va aussi harmoniser le nom de ce code produit, puisqu'il y avait le AN13 en Europe, on va dire, et dans le reste du monde, mais il y avait aussi le code UCC aux États-Unis. Donc, on a décidé de uniformiser le nom en appelant ça le Global Trade Item Number pour GTIN. Mais on entend encore assez souvent parler parfois de GENCODE, de AN13, de code UPC, parce que c'est tous les noms qu'on utilisait jusqu'à 2005.
Et comment vous avez fait le choix ? Vous avez fait un tableau Excel en mettant tous les noms possibles, vous avez tiré un numéro, puis imprimé chacun un code barre, que vous avez découpé chaque code barre pour mettre dans un panier, et ensuite une main innocente à tirer au hasard ?
On aurait pu essayer de trouver un terme qui fasse consensus et qui reflète assez bien le fait de vraiment d'un identifiant mondial, donc un identifiant global. Et donc, il y a eu des travaux de marketing pour arriver à sortir ce nom de GTIN.
Qui compose le GS1 actuellement au niveau international ?
Qu'est-ce que vous entendez par composer ?
Qui en fait partie actuellement niveau chapitre ?
Alors, aujourd'hui, donc GS1, c'est ce que je comprends, c'est une fédération. D'abord, c'est un petit peu inhabituel, hein. C'est pas une maison avec un headquarter international et des filiales. C'est aujourd'hui, on en est, si je me trompe pas, à 118 organisations nationales qui sont fédérées au sein de la structure internationale. Donc vous avez 118 pays, donc vous voyez que c'est très très varié, hein, puisque bien évidemment on va retrouver les gros, mais c'est un principe aussi très, vraiment très fondateur pour GS1, c'est de dire il faut qu'on accueille tout le monde et qu'on permette à chaque pays et à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, d'accéder au système. Donc on a aussi bien, encore une fois, des grands pays que des tout petits. Le dernier, je l'avoue que je l'ai pas en tête, hein, mais on est prêt à accueillir sur ces principes de non-for-profit tout pays qui veut disposer de sa propre structure. Et ensuite, on a, mais on y reviendra, je pense, un petit peu après. C'est aussi un élément très très important dans le fonctionnement de GS1. Ce sont les entreprises utilisatrices qui nous gouvernent et donc qui participent notamment à l'élaboration de ce système d'identification des produits et des entreprises.
Et comment se fait la gouvernance aux trois échelles, c'est-à-dire au niveau international, au niveau européen et au niveau national ?
Alors, au niveau international, donc on est une fédération, donc on a une assemblée générale, c'est la premier niveau de gouvernance. Donc, comme toute association, y a chaque pays en fait contribue à la prise de décision au niveau international, et c'est complété par ce qu'on appelle un management board. Donc le management board, c'est des représentants des entreprises adhérentes à GS1. Donc vous allez retrouver aussi bien des entreprises très connues, très grosses comme Nestlé, Walmart, Carrefour, L'Oréal, pour n'en citer que quelques-unes, mais aussi bien évidemment tous les nouveaux acteurs, parce qu'on est principe d'inclusion très important, comme Alibaba, comme Google, des entreprises qu'on connaît moins nous en France et en Europe, mais notamment des entreprises en Inde. L'idée, c'est d'avoir une grande diversité pour représenter finalement la richesse et la complexité des utilisateurs de ce fameux GTIN. Et l'idée, c'est que collectivement, ces utilisateurs finalement décident des grandes orientations et de leurs besoins et des évolutions du système. Donc ça, c'est au niveau international. Par rapport à votre question sur l'Europe, alors l'Europe, il y a une structure et c'est plutôt une coordination, je vais l'appeler comme ça, des organisations GS1 en Europe. Alors avec une notion de l'Europe très étendue, hein, puisque c'est 49 pays, 49 members, qu'on appelle des member organizations chez nous, donc des GSI locaux, qui se réunissent pour, là aussi, essayer de définir des priorités et de proposer des réponses de la plus cohérente possible au marché, et notamment, bien évidemment, avec une grosse articulation avec la Commission européenne, puisque, effectivement, la structuration du marché européen se fait aussi beaucoup au travers des directives et des réglementations. À titre d'exemple, on échange beaucoup à ce niveau-là sur des enjeux de que ce soit de souveraineté, que ce soit de numérique notamment, que ce soit des enjeux de traçabilité, de sécurité consommateur. Et donc là, on travaille avec eux pour voir comment voilà, le code à barre, qu'il soit 1D ou 2D, permet et toutes les autres outils dont on dispose permettent de soutenir et d'améliorer la sécurité et l'efficacité et la souveraineté au niveau européen. Voilà, au niveau national, pour finir, par rapport à votre question, on a, nous, un conseil de surveillance qui est composé d'un certain nombre de représentants de nos 50 000 entreprises adhérentes. Et là, on va retrouver aussi, parce que je l'ai pas évoqué, mais on essaie d'avoir un conseil de surveillance qui est représentatif de la diversité des secteurs et des filières qui utilisent nos produits, notamment le GTIN. Donc on a des gens, bien évidemment, de la grande distribution, des produits de grande consommation, mais on a des gens du secteur hospitalier, on pourra en discuter. On a des gens du monde de l'agriculture, on a des gens du monde du transport, je vais essayer de pas l'oublier, du e-commerce, bien évidemment. Et on a aussi la volonté d'avoir dans cette conseil de surveillance qui représente nos 50 000 entreprises adhérentes, on a aussi essayé d'avoir des représentants des PME, parce que ça aussi c'est important, c'est un système qui n'est pas réservé aux grands. Mais on a notamment la directrice d'une société qui s'appelle Mulot Petit Jean. Mulot Petit Jean, c'est un fabricant de nonnettes et de pain d'épices dans la région de Dijon. C'est une PME très dynamique, mais voilà, qui aussi porte la voix des petits utilisateurs ou des entreprises plus petites qui mettent des codes à barre et des GTIN sur leurs produits.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Xavier Barras, directeur des opérations chez GSI France. Combien d'entreprises ont donc une autorisation d'émettre des GTIN et donc un permis de barrer ?
Permis de barrer. Alors aujourd'hui en France, on a un peu plus de 50 000 entreprises adhérentes. C'est ouvert à tous. Il n'y a pas de conditions d'accès restrictives. Donc c'est aussi bien des multinationales, des grands groupes que des toutes petites entreprises. Hein. Moi, pour citer l'exemple, je connaissais un restaurateur qui fabriquait des très bonnes pâtes et il avait décroché l'opportunité de les vendre en barquette dans le Super U du coin et il était devenu adhérent à GSI pour justement identifier ses produits. Donc c'est ouvert à tous, donc c'est un peu plus de 50 000 entreprises en France et on est autour de 2 millions d'entreprises dans le monde qui identifient leurs produits avec des GTIN.
On a une estimation du nombre de codes qui ont été émis et qui sont actuellement en circulation ?
Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et hélas, aujourd'hui, j'ai pas vraiment la réponse à vous donner. En fait, le système aussi, il a 50 ans, c'est ce que je vous disais, donc les entreprises ont toujours été assez autonomes.
Il était très décentralisé par conception. Exactement. Puisqu'à l'époque, on n'avait pas des grandes bases de données.
Exactement. Donc, comme on n'avait pas de base de données, d'Internet, il fallait laisser beaucoup de souplesse aux entreprises pour créer leur code. Voilà, progressivement, là, depuis 5-6 ans, donc on est en train de mettre en place, un registre mondial des produits. Et progressivement, voilà, les entreprises ont maintenant la possibilité de créer, de déclarer leur code dans un registre mondial, dans un annuaire mondial des produits. Donc c'est quelque chose qui se met en place depuis 5 ans et qui va permettre progressivement justement d'avoir cet annuaire des produits ou ce registre des produits. Mais c'est vrai qu'on est, on a beaucoup de difficultés à pouvoir vous dire exactement quel est le nombre de produits en circulation.
Oui, ça, je n'en doute absolument pas, mais la question méritait d'être posée.
Tout à fait.
Combien cela coûte d'avoir le droit d'émettre des GTIN et donc d'être membre de GSI France ?
Alors, aujourd'hui, pour les plus petites entreprises, c'est une petite centaine d'euros. Ça leur permet effectivement d'accéder au système et ensuite d'avoir ce code qui leur permet aussi bien de vendre à Carrefour, à Système, sur Amazon ou sur Cdiscount. Voilà, et puis en fait ce coût d'accès au système de GPL, alors c'est en fonction de la taille de l'entreprise, elle va contribuer à l'association. Donc en fonction de son chiffre d'affaires, elle rentre dans une catégorie. Donc les plus petits payent une centaine d'euros, les plus gros quelques milliers d'euros pour que le système puisse fonctionner et être maintenu et évoluer.
Et on obtient donc un bloc que l'on a le droit d'utiliser. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait l'unicité d'un produit référencé ? Qu'est-ce qui fait que deux produits ne doivent plus partager le même code, mais avoir chacun leur index dans le GTIN ?
Alors, en fait, c'est très simple, hein, parce que à quoi il sert le GTIN ? L'idée, c'était pas juste d'avoir un code pour avoir un code. Bah, il sert notamment au passage en caisse. Donc, si je prends le premier exemple, c'est le plus connu de tout le monde. Bah, si deux produits ont deux prix différents, parce que vous avez, je sais pas quoi, la petite boîte de soupe et la grosse boîte de soupe, c'est la même soupe, mais il faut que, au passage en caisse, on affiche le bon prix, on fasse payer, on paye le bon prix en fonction de la boîte qu'on a choisie. Mais c'est aussi donc utilisé pour passer les commandes, pour gérer les stocks. Donc si effectivement j'ai deux produits pour lesquels je dois gérer mes stocks différemment parce que je dois pouvoir livrer le bon produit au client. Donc c'est vraiment pour servir le métier, le commerce. Et de dire, je dois pouvoir distinguer deux produits qui représentent finalement deux actes d'achat différents pour le consommateur.
Mmh. Et à l'inverse, pourquoi la même référence produit peut avoir deux GTIN, voire plus ?
Ah, alors ça, c'est une très bonne question. C'est un des sujets...
que des bonnes questions.
Bien sûr. Alors, pourquoi il y a parfois plusieurs GTIN sur un même produit ? Alors, en fait, la plus grosse question auxquelles on est à répondre souvent, c'est... Ça veut dire quoi un même produit ? Je vais vous prendre un exemple tout simple. Deux produits qui semblent absolument similaires entre le marché français et le marché belge, par exemple. Il y en a un, c'est écrit qu'en français dessus, et l'autre, c'est écrit dans deux langues, hein, puisque le marché belge impose les deux langues officielles. Donc, ça ressemble vraiment au même produit, et de temps en temps, on peut acheter l'un ou l'autre. Mais par exemple, quand il faut gérer des stocks et s'assurer qu'on livre le produit qui conforme à la réglementation belge par rapport à la réglementation française, ben c'est des produits qui sont pas ce qu'on appelle interchangeables, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut pouvoir les distinguer. Donc il y a ce cas-là typique, c'est que ça ressemble au même produit, mais en fait c'est pas exact. Et pour des raisons logistiques notamment, il faut pouvoir les distinguer. Et après, il y a aussi des évolutions du produit, par exemple, qui nécessitent de changer les GTIN. Un point, on en discute actuellement avec le contexte actuel. Si je fais une évolution de mon produit, par exemple, je modifie les allergènes présents dans le produit, il faut distinguer par des codes différents les produits pour être sûr qu'à un moment donné, le consommateur, parce que le consommateur utilise maintenant aussi le code à barre, puisse s'assurer, avoir la bonne information par rapport à un produit qui semble identique, mais un ne contient pas l'allergène et l'autre le contient. Mmh. Donc voilà, il y a certains cas qui peuvent, et puis après il y a parfois des erreurs aussi, et des pratiques un peu, comment dire, non conformes sur le marché, puisque chacun, on le disait tout à l'heure, chaque entreprise est assez autonome dans la codification de ses produits.
Ai-je le droit d'émettre des codes-barres GTIN sur des produits qui sont illégaux dans mon pays, mais autorisés dans d'autres ? Et non, je ne parle pas forcément de fines herbes de Provence.
Alors, ça, c'est un point important. C'est que nous, on donne la capacité aux entreprises d'identifier leurs produits. On n'a pas vraiment de visibilité ou de connaissance, ni de responsabilité, d'ailleurs, sur la nature des produits qu'ils identifient. Donc, c'est pas parce qu'ils ont un code qu'ils sont à la fois conformes à la réglementation ou conformes aux bonnes mœurs. Nous on offre cette capacité aux entreprises, charge à elles par contre d'être en respect des réglementations ou des contraintes réglementaires. Et d'ailleurs on l'a bien vu, au contraire, vous avez vu les derniers soucis de retrait rappel sur certains produits. Au contraire, en fait, le code à barre, il va servir aussi à pouvoir identifier et retirer, rappeler des produits qui feraient l'objet d'un problème sanitaire. Donc, le code à barre ne te garantit pas la conformité des règlements, mais facilite encore une fois l'identification et l'échange des produits.
La France a droit aux indicatifs allant de 300 à 379, soit à peu près de mémoire quelque chose comme 80 000 milliards de références gétines, là où la Chine, par exemple, a le droit entre 690 à 699. Le zonage des gétines doit-il être remis à jour, puisque effectivement il date d'il y a 50 ans, ou la Chine doit-elle en songer à envahir Taïwan, la Thaïlande, le Népal, le Bhoutan, la Mongolie et la Russie afin d'avoir assez d'index de réserve, et après tout, pourquoi pas, c'est à la mode de, d'envahir en ce moment.
Ouais, hélas, je ne suis pas sûr que ce soit la motivation première. Non, en fait, on a beaucoup d'index, donc on a attribué des index à chaque pays qui se présente, hein, parce que l'idée, encore une fois, c'est qu'on est très ouvert. Il y en a encore en réserve. Et on réfléchit aussi de toute manière à des systèmes qui permettraient aussi de croiser les choses. Donc, il y a pas de souci si demain la Chine a besoin de plus de préfixes, on en a en réserve au niveau international pour lui attribuer. Mais comme vous le disiez, ça fait beaucoup beaucoup de références.
C'est un souci quand même que l'on connaît en téléphonie et dans les plans d'adressage IPv4 sur Internet, la pénurie d'espace. Donc vous me dites que vous vous assurez que donc il n'y a pas un risque de pénurie de code. C'est quoi les stratégies du switch de code, des réserves d'index, ou voire même des organismes nationaux qui se proposent de revendre des index, des plages d'index, pardon.
C'est pas vraiment de la revente. Non, alors donc on fait des études régulières. Effectivement. Il y a une risque de pénurie, sans doute un jour, mais aujourd'hui, je ne sais plus combien on est, à 40 ou 50 ans. Alors ça dépend aussi bien évidemment des scénarios d'usage. L'enjeu, c'est toujours pour nous d'être strict dans l'attribution et l'allocation de ces codes. Hein. On est de plus en plus vigilant sur et on continue à mieux gérer ça. C'est plus facile aujourd'hui avec Internet que ce ne l'était dans le passé. Mais il n'y a pas de revente, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a une réserve qui est géré par l'association internationale et qui est capable de demander d'attribuer des préfixes supplémentaires au pays. Par contre, il y a effectivement une gestion stricte et des principes stricts de gestion de ces capacités pour éviter justement d'arriver à une pénurie de code.
Il y a toujours des débats un petit peu sensibles au sein des grandes associations comme ça, et au sein d'ailleurs de la plupart des organismes de normalisation sur lesquels on a jeté un œil. Quel est le sujet qui fait élever la voix au sein de GS en France ?
Il y en a plein. Alors, nous, on est un organisme de concertation. Donc, c'est notre particularité. Le système du GTIN, c'était le point de départ. C'était dire, bon, on va mettre la grande distribution et les industries des produits de grande consommation autour de la table pour essayer de définir un système commun. Pas toujours facile, je dirais que d'une manière générale, on arrive à mettre autour de la table des gens qui ont une vision différente, hein, quelle est la problématique d'un, je vous donnerai un exemple concret, mais quelle est la problématique d'un grand distributeur par rapport à une marque. Donc on a parfois des discussions assez animées, hein, parce que, encore une fois, les standards et les règles sont définis par les entreprises elles-mêmes. Mais l'idée, c'est de leur faire bien comprendre qu'à un moment donné, elles ont un intérêt commun à avoir un code unique et partagé entre eux. Donc, il y a parfois des discussions assez animées, hein, parce que je parle beaucoup de la grande distribution, parce que c'est bien évidemment historiquement notre secteur de créer. Mais aujourd'hui, actuellement, autour de la table, construction, qui essaye aussi d'améliorer l'identification des produits qui servent à la fabrication, à la conception et à la construction d'un immeuble. Qu'est-ce qu'on a actuellement ? On a aussi le secteur du textile, le secteur de la santé, qui a notamment utilisé les codes GS1 pour toutes les problématiques de logistique des vaccins. Donc il faut arriver à mettre d'accord, et c'est parfois animé. Allez, si je prends un sujet récurrent qu'on n'a jamais résolu, pour être très clair, il est assez rigolo, c'est-à-dire que quand on a dit on va créer un code pour un produit, ça serait bien d'avoir une description unique du produit, quoi, en s'accord sur la manière de décrire un produit. Et on n'a jamais mis personne d'accord là-dessus, parce que la marque a tendance à vouloir dire il faut mettre la marque dedans, c'est important, hein, et puis le distributeur il dit ouais, mais il faut mettre, est-ce que c'est des petits pois ou des carottes, parce que c'est important pour le consommateur. Donc des grands débats, parce que chacun a une manière de voir le produit différent, comme quelle information il souhaite partager. C'est des sujets un peu récurrents qu'on a comme ça, qui sont qui remontent régulièrement à la surface. Qui font aussi toute la richesse, parce que la manière de faire du commerce il y a 50 ans, c'est plus la même manière aujourd'hui. Donc c'est aussi quelque chose qui vit et qui permet justement de créer de la valeur. Nous on dit c'est bien les débats, parce que ça veut dire qu'à un moment donné on cherche à créer de la valeur commune Mais voilà, oui, il y a des choses animées. Je confirme.
Ça veut dire que la norme est vivante. C'est déjà une très bonne
Exactement.
Chose.
Exactement.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Xavier Barras, directeur des opérations chez GS1 France, et c'est une interview plutôt barrée justement sur l'attribution des codes barres. Et si je suis une TPE, une toute petite entreprise, et que je veux moins d'une dizaine de codes barres, faut-il vraiment que j'achète un droit sur un bloc de 100 000 codes barres attribuables ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est, on ne cherche pas une capacité. Hein. Mmh. C'est en fonction de la taille de l'entreprise qu'elle va payer un certain montant parce qu'elle rentre dans une tranche. Et nous, on va lui appeler. Aujourd'hui, on attribue les plages de code, pardon, en fonction de son besoin. Donc, on prend un peu de marge parce que bah, ce qu'on souhaite, c'est que nos entreprises, elles se développent en général, elles enregistrent leur catalogue. Donc, dans une TPE qui aurait moins d'une dizaine de références à identifier, on va lui attribuer aujourd'hui plutôt un bloc de 100 ou de 1000 codes.
D'accord, donc c'est beaucoup plus souple que ce qui a marqué quand même sur votre propre site.
Ah, c'est, là, il faudrait que je fasse la mise à jour du site parce qu'en fait, en plus, dans le parcours, on pose la question et l'idée, c'est d'accompagner au mieux l'entreprise parce que, et c'est paradoxalement, c'est pas en fonction de la taille. Je pense que c'est important. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait la connexion entre les deux. C'est-à-dire qu'une TPE qui fait effectivement, je ne sais pas quoi, du miel, elle va avoir 4, 5, 10 références, comme vous le citiez, mais une autre TPE qui fait du textile, elle peut tout de suite avoir 50, 100 références, parce qu'entre la modèle, des tailles et des coloris, elle va avoir besoin de capacité. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait cette connexion entre le nombre de codes et le coût de l'adhésion et le coût d'utilisation du système, parce que c'est pas parce qu'on a besoin de beaucoup de codes qu'on est une grosse entreprise avec beaucoup de moyens. Donc, il faut qu'on puisse répondre aux pratiques et aux besoins des différentes entreprises.
Mmh. Il y a une durée de vie sur les codes barres où leur durée d'attribution est illimitée ?
Alors, leur durée d'attribution, on va dire qu'elle est illimitée. L'idée, notamment avec l'émergence d'Internet, l'idée, c'est de ne pas réutiliser un code pour, au bout de quelques années pour un autre produit. Voilà, mais il y a quand même besoin d'un certain nombre de contrôles. C'est important que on puisse contrôler que le produit correspond, le code pardon correspond bien au produit. Donc c'était limité, mais il faut maintenir un certain nombre d'informations à jour sur le produit.
Mmh. J'ai cru comprendre qu'il existe un secteur de code de seconde main. Alors, les explications variées suivant les sites, donc j'ai trouvé ça... j'essaie de comprendre un petit peu, justement, ce secteur économique. Comment en est-on venu à ce que cela existe ? Qui sont les opérateurs derrière et quelles sont les garanties et risques ? Alors, pour reprendre dans l'ordre, comment en est-on venu à ce que cela existe ?
Alors, comment en est-on venu ? Bah, c'est... je veux dire, ça, c'est le propre de l'homme, hein, dès qu'il y a un business à faire, il y a toujours des gens qui trouvent le moyen de s'accrocher dessus, on va dire, ou en tout cas d'en tirer l'opportunité. Plus sérieusement, aux US, au tout début du système, finalement, les codes étaient entre guillemets vendus, c'est-à-dire qu'une entreprise qui adhérait aux US devenait propriétaire des codes. Et donc, on a vu certaines entreprises se mettre à revendre des codes, ce qui maintenant est interdit dans le système et dans les contrats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce marché du code de seconde main, comme vous dites, il est complètement incontrôlable et sans aucune garantie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt d'adhérer à GS1, c'est que nous vous garantissons que les codes, on vous attribue une série de codes qui n'a jamais été attribué dans le passé. Ça fait partie de notre engagement. On le suit. On est capable aussi de le communiquer à tout client qui le demanderait. Hein. Par exemple, c'est le cas aujourd'hui. Hein. Il y a de plus en plus pour vendre des produits en Chine, par exemple. Il faut avoir la confirmation comme quoi on est bien titulaire des codes. Donc nous, on fait tout un suivi. Là, quand vous partez sur un marché de la seconde main, c'est un petit peu, je dirais, au bonheur la chance. Vous n'avez pas vraiment de garantie. Il n'y a pas vraiment d'organisation derrière. Si vous allez sur les sites, ils vont vous fournir une adresse, et à l'adresse que vous avez derrière, vous allez vous retrouver devant un particulier. Donc, après, voilà, c'est du marché gris, du marché noir. L'enjeu, là, derrière, c'est si l'entreprise prend un code sur ce marché-là, le risque, c'est que ce code ait été déjà attribué à une autre entreprise, qu'il soit pas reconnu, du coup, par son client, et que donc il se retrouve avec des produits et des codes à barre qui sont inutilisables, donc refaire le packaging. Donc voilà, il n'y a pas de garantie, c'est des gens qui profitent, je dirais, pour faire un peu de business, mais vraiment sans aucune garantie de l'unicité de ces codes.
Mmh. Et du coup, rien n'interdit dans les contrats d'adhésion à GS1 d'interdire la revente ou quoi que ce soit.
Alors si au niveau quoi maintenant dans quoi maintenant depuis longtemps maintenant mais quand une entreprise adhère au système GS1 pour être très clair, d'abord elle n'est pas propriétaire des codes, elle obtient une licence, d'accord, qui est valable le temps de son adhésion. Voilà, si elle décide de ne plus être adhérente, elle perd cette licence et bien évidemment, c'est stipulé qu'elle n'a pas le droit de revendre des codes ou de relicencier des codes parce qu'encore une fois, et c'est une tendance forte actuellement, on a de plus en plus de demandes, que ce soit des pouvoirs publics ou que ce soit même des autres acteurs, des clients, de pouvoir identifier clairement qui est derrière le code pour des questions de traçabilité, pour des questions de sécurité alimentaire, pour des questions demain aussi d'économie circulaire. Et donc, l'idée, c'est que nous, on suit non seulement l'attribution des codes, mais aussi, finalement, quel est leur lien avec des entreprises pour justement améliorer la traçabilité, la sécurité.
Est-ce que il est déjà arrivé des collisions, voire des usurpations d'index ?
Oui, bah dans le cas qu'on citait juste avant, il y a des sites qui vous vendent des codes avec des numéros petit bonheur la chance, donc il est tout à fait possible qu'à un moment donné, le code acheté sur un marché comme ça, en fait, il était déjà attribué et déjà utilisé par une autre entreprise. Après, on a vu des erreurs aussi. Hein. C'est vraiment le cas où une entreprise s'est trompée en créant son code et s'est retrouvée sur le code d'une autre entreprise. Voilà. Donc là aussi, pareil, on fournit de plus en plus d'outils sur Internet, des API qui permettent soit d'attribuer, de bien attribuer des codes quand on les crée pour nos adhérents. Soit de les contrôler pour s'assurer que le code est bien un code valide au sens où à un moment donné, enfin, c'est pas exactement ce que je disais, oui, ce code il est attribué et il est attribué à telle société donc elle a le droit de l'utiliser. Voilà, donc c'est quelque chose qui a explosé avec Internet parce que bien évidemment tant que les magasins étaient un peu dans leur gestion locale, ça se voyait pas trop. Maintenant avec Amazon, Google utilise un Google Merchant et Google utilise aussi les GTIN pour retrouver de l'information de produits.
Toutes les marketplaces sur Internet utilisent le GTIN. On ne peut pas se retrouver indexé justement sur la plupart des marketplaces si on n'a pas un GTIN derrière.
Exactement. Je vais vous prendre un exemple. Certaines marketplaces ont même blacklisté certains codes parce que ils étaient utilisés par beaucoup trop de revendeurs. Typiquement, si vous allez sur Google, vous faites une recherche code barre, vous allez avoir des exemples de code barre avec une série de 13 chiffres. Voilà, en général, ces 13 chiffres-là, ils sont généralement blacklistés parce que plein de gens ont eu la bonne idée juste de réutiliser cela.
Oui, le maquettiste s'est pas posé la question. Allez, hop, je copie-colle et puis point barre.
Voilà. Et on a le cas aussi. Moi, je prends souvent l'exemple. Alors, je sais pas exactement si c'est vrai, hein, mais c'est le code, le GTIN de la canette de Coca de 33 centilitres. Le GTIN se retrouve là aussi souvent blacklisté parce qu'il est utilisé par un certain nombre de tonnes qui ne comprennent pas le système et qui ont dit bah j'ai besoin de 13 chiffres, je les prends et je les utilise. Donc voilà, donc oui, il y a plein de cas, mais justement nous cet annuaire qu'on met en place au niveau international qui contient déjà, alors c'est beaucoup et pas beaucoup, plus de 150 millions de GTIN. Bah justement permettre de mieux contrôler et de s'assurer que quand on me déclare un GTIN, notamment pour des gens comme Amazon, Carrefour, Système U, s'assurer que ce GTIN correspond bien au produit posé à la vente.
J'imaginais pas qu'il puisse avoir des attaques en fuzzing et en usurpation à ce niveau-là pour faire blacklister et faire passer comme spammer une entreprise légitime.
Je crois que ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que on n'est pas le GTN, c'est pas un code légal, hein, parce qu'encore une fois, c'est aucune obligation réglementaire. Donc quelque part, les pratiques qu'il y a autour du GTN sont un peu les reflets de la réalité du marché. J'avais un autre exemple en tête par rapport à votre question. C'était, on a été plusieurs fois, alors c'est pas fréquent, mais ça nous est arrivé, sollicité en tant qu'expert jugement, notamment en contrefaçon. C'est-à-dire que certains contrefacteurs avaient tellement contrefait le produit qu'ils étaient allés jusqu'à reprendre le GTIN du produit contrefait. Et donc, on nous sollicitait pour savoir qui était le titulaire du GTIL. Parce que, en fait, voilà, il y avait des gens qui avaient fait de la contrefaçon, on va dire, assez grossière. Ou en tout cas, sans se poser beaucoup de questions, ils étaient allés jusqu'à reprendre le produit. Donc voilà, il y a plein de cas, c'est le reflet de la société, des gens qui se trompent, des gens qui ne comprennent pas le système, des gens qui essayent de contourner certains usages du GTIN. C'est toute la richesse aussi de cette activité, c'est que le GTIN apporte de la rigueur, mais voilà, les usages en sont parfois un peu détournés.
Ça a révélateur à ce stade, d'un coup de lecteur à code barre. Pour terminer, Monsieur Barras, quelle est votre référence GTIN favorite et pourquoi ?
Alors, j'ai trouvé une réponse assez facile à cette question. Je pense que c'est, pour moi, la référence GTIN favorite, c'est celle qui existe encore. Pourquoi ? Parce que finalement, je vais dire, ce système, on voit 13 chiffres, attribuer 13 chiffres, c'est pas une révolution technologique, mais il y a 50 ans, c'était un vrai défi technique, d'ailleurs, d'imprimer des codes à barre. Et voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir justement permettre d'identifier les produits et surtout de le permettre à tous. Je citais l'exemple tout à l'heure de ce restaurateur qui faisait des pâtes fraîches, mais je pense que c'est quelque chose qui a été assez fantastique pour moi dans la conception du système, et j'y étais pas, bien évidemment. C'est qu'on a imaginé un système qui n'était pas réservé qu'aux multinationales, mais un système qui permettait vraiment de d'être accessible à toutes les entreprises de toute taille. Mmh. Et d'ailleurs, une des conséquences qu'on ne voit pas toujours du code à barre, on dit souvent « le code à barre en magasin, ça a permis d'accélérer le passage en caisse », c'est vrai que c'est assez visible, et surtout, ça a permis de diversifier le nombre de références. C'est-à-dire qu'avec le code à barre, c'était beaucoup plus facile pour un magasin de gérer des petites références locales en disant bah, « tiens, j'ai le miel du petit produit du coin qui est quand même meilleur ». Et c'est la richesse. Et c'est tout un enjeu, c'est-à-dire que c'est un produit, le GTIN, le code à barre, c'est très standard, mais c'est un standard qui donne le choix. Donc je pense que c'est pour ça que je dis, chaque fois qu'on peut permettre à quelqu'un de commercer et de vendre ses produits, ses bouteilles de vin, sa production, bah, c'est finalement quelque chose qui crée de la richesse et qui crée de la diversité. Et pour tout vous le dire, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup actuellement. C'est qu'avec l'économie circulaire, de plus en plus de sourcing local, le système, il est aussi prêt à accueillir cette évolution du commerce et des modes de consommation. Parce que il n'est pas la peine d'être une multinationale au CAC 40 pour pouvoir aujourd'hui mettre un code à barre sur son produit.
Et c'est donc sur cette conclusion qui donc fait découvrir qu'effectivement le code à barre a donné les pratiques minimales justement à une entreprise pour pouvoir se développer, ce qu'on appelle les bonnes pratiques justement pour que tout le monde travaille le même langage. On va se quitter. Merci infiniment pour cette interview, Monsieur Barras. Et c'est un plaisir, en tout cas.
Merci pour cet échange.
Voilà. Bien à vous. Et on continuera justement le sujet dans une prochaine émission où on parlera des codes barres en 2D, puisque donc il a fallu stocker plus d'informations. Merci, au revoir.
Au revoir.